10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est l'islam au présent tous les samedis sur Beurre FM. Une heure pour parler d'islam. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam.
Bonjour Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi d'abord, et Yanis aussi qui est à la prod. À l'aria, on est à l'aria ou la prod?
À la réalisation.
La réalisation,
voilà, ouais. C'est lui le chef de gare.
C'est lui le chef de gare, Allah mubarak. Il est sympa, il est machallah, il est mignon comme un nounours. Et puis bien entendu à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur Beurre FM tous les samedis matins, hein, pour écouter et pour être ensemble, pour vivre une heure de spiritualité dans notre belle émission l'islam au présent, hein, qui est un beau titre que l'on a choisi il y a longtemps, Philippe, que tu as choisi, que tu avais préféré parmi d'autres.
À l'époque,
ouais, à l'époque. Quand on avait plein de dents. C'était le bon temps.
Qu'il est bête. Bon, Imam Abdelali, vous êtes prêt? Vous avez fait votre sac de pèlerin puisque vous partez...
Inch'Allah, mercredi. Il reste encore 2-3 places. Je veux bien...
L'avion n'est pas plein.
Si aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent je suis prêt à ramener le passeport français et le passe, aujourd'hui, il peut s'inscrire.
Mais vous partez enfin, voilà.
Mercredi. Mercredi. Ouais, donc mercredi, ceux qui veulent partir mercredi, qui veulent passer les fêtes de fin d'année, véritablement dans un monde totalement dans un cocon islamique, loin de toutes ces paillettes de Noël et je sais pas quoi... Eh bien, il me rejoint, Inch'Allah, il est bienvenu pour vivre ce moment d'une intensité culturelle, spirituelle, conviviale, fraternelle. C'est formidable, bien sûr, devant la Kaaba, devant la tombe du prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et toutes les ziyara, tout le circuit du Hajj, le berceau de l'islam. À la découverte du berceau de l'islam, eh bien, bah, écoutez, rappelez-moi, je donnerai le numéro tout à l'heure, 06 29 25 35 00, je répète encore une fois, 06 29 25 35 00, mais vraiment, c'est aujourd'hui dernier délai, aujourd'hui. Il n'y a plus de place après.
Bon, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été en pèlerinage?
Février 2020. Bon, ça fait presque deux
pas
ans.
Pas tout à fait deux ans.
Ah ouais, moins de deux ans. Ça va.
Ouais,
donc
ouais.
Ça va. On a vraiment été jusqu'à la dernière période avant le début du Covid du mois de mars 2020. Et puis jusqu'à maintenant, donc c'est pratiquement le début du lancement du pèlerinage qui a débuté au mois d'octobre, on va dire septembre-octobre, mais avec beaucoup de fragilité parce que beaucoup étaient dans l'incertitude. Est-ce que c'était possible? Il y avait déjà un confinement obligatoire. Là, il n'y a plus de confinement, heureusement. Il y avait l'interdiction pour les personnes de plus de, je ne sais plus combien, 53 ans ou 50, ouais, je crois que c'est 50 ans, et pour les enfants de moins de 19 ans, de 18 ans. Là, aujourd'hui, c'est fini, hein. Seuls les enfants de moins de 12 ans n'ont pas le droit d'y aller. Donc, ceux qui ont tous plus de 12 ans et qui veulent y aller, il n'y a plus d'âge, c'est-à-dire jusqu'à 90 ans ou 100 ans, il n'y a pas de problème pour partir là-bas, Inch'Allah. Il suffit simplement de m'appeler et puis on organise ça rapidement. Et il faut bien sûr un passeport français, là je parle pour ce voyage-là, hein, du 22, un passeport français, le pass sanitaire avec deux injections. Voilà, et c'est tout.
Pas trois injections, pas encore.
Non, pas nécessairement trois.
Imam Abdelali, alors la semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'islam, religion de paix et source de paix. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples qui illustrent cette notion fondamentale?
Eh bien, effectivement, donc déjà, étudions les visées de la loi principale de tous ces mots qui font peur. Il y a des mots qui font peur, tels que le mot « djihad ». Ce mot-là d'abord, qui n'a été institué seulement que pour imposer la paix et en aucun cas pour imposer la religion aux autres. Aucune bataille, aucune, on va dire, violence n'a été perpétrée par notre prophète bien-aimé Mohammed s.a.w. avec l'idée de vouloir convertir de force ses adversaires. Jamais de la vie il a été question de les convertir. Et le plus bel exemple, ça a été quand il est venu conquérir la Mecque alors qu'elle était pleinement habitée par des mécréants, des polythéistes, des idolâtres. Il n'a pas dit, bon, ceux qui se convertissent, je leur pardonne. Ceux qui ne se convertissent pas, eh bien, je m'occupe d'eux, c'est-à-dire je les extermine. Il n'a été jamais question à cela. Tous les historiens confirment bien qu'il y a eu cette belle parole de notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand il avait ses 10 000 hommes avec des archers tendus, avec des flèches, qui n'attendaient qu'un signe du prophète pour massacrer la population mécoise, il a interpellé cette population donc totalement, on va dire, à la merci du prophète, alayhi salatu wassalam, et il leur a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous maintenant? Et là, ils dirent, tu es généreux et tu es un notable, tu es un noble parmi les nobles et fils de nobles. on ne pense pas que tu fasses autre chose de quelque chose de noble. Et là, il a dit, allez, je vous laisse, partez, vous êtes libre. Idhabu fa antum at-tulaqa. Donc là, on montre bien combien l'islam, en aucun cas, a cherché à vouloir la violence, mais il est dit clairement que la non-violence envers le tyran est en lui-même un acte tyrannique, est un acte qui n'est pas acceptable. On doit faire preuve, on doit résister quand il faut faire preuve d'affronter, quand il faut affronter l'injustice et la tyrannie. Il n'est pas permis, face à la tyrannie et l'injustice, de rester les bras ballants, en pensant que, au nom d'un soi-disant pacifisme, je vais rétablir la paix. Non, il faut à ce moment-là utiliser tous les moyens, non pas pour tuer le tyran, mais du moins le mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire d'empêcher sa tyrannie, et non pas de chercher à tuer le tyran ou le malveillant ou l'injuste. Il s'agit de mettre hors d'état de nuire celui qui est injuste pour que s'impose dans la société cette notion qui aussi fait peur chez beaucoup de gens, c'est la notion de califat. On parle, ouais, califat islamique, tout de suite c'est l'état islamique, on parle de loi islamique, de charia islamique, tout ça c'est des bêtises. Le mot califat est utilisé dans le Coran que seulement quand Dieu parle d'Adam, quand il dit qu'il en fera un calife sur terre. Un calife c'est quoi un califat? Un califat c'est l'inverse de la loi de la jungle. C'est l'inverse de cet état social qui consiste à imposer la force sur le faible, ou le fort sur le faible, où les forts peuvent faire du tort aux faibles, quelle que soit la situation. C'est tout simplement interdire et empêcher la loi de la jungle de s'imposer, où les forts mangent les faibles, et faire en sorte que tout un chacun, qu'il soit faible ou fort, puisse être en toute sécurité et puisse circuler en toute quiétude dans l'espace public. Et alhamdoulilah, aujourd'hui en France par exemple, et en Occident, et dans beaucoup de pays du monde entier, la plupart des pays, j'ai bien parlé quelques rares exceptions, où là, effectivement, quand il y a des comportements tyranniques de la part de milices, d'organisations terroristes, d'organisations de mercenaires, tous ceux qui veulent semer le chaos et le désordre, eh bien, nous sommes tous responsables devant Dieu de devenir, nous, à ce moment-là, des califes qui vont imposer l'ordre et faire régner l'ordre dans ce pays où est-ce que le chaos a pris place à la place de l'ordre. Donc, à partir du moment où dans un pays il y a l'ordre, le jihad est aboli, du moins il est suspendu jusqu'à qu'il y a des ordres. Hein? Là, quand on crie aux armes, citoyens, formez vos bataillons, les bataillons contre la tyrannie, contre l'injustice, il est légitime. Et on garde dans cet esprit-là que si en France, et comme dans n'importe quel autre pays, il y a eu, dans la plupart, ils ont eu une histoire à un moment donné où il y avait une violence. Pour imposer cet ordre, eh bien, qu'il en soit ainsi, il ne faut pas oublier l'histoire pour que nous puissions construire un avenir de paix. Pour prendre la leçon du passé où on a dû utiliser la force et la violence pour imposer la paix. Et pour dissuader les malveillants, les suppôts du diable, les soldats de Shaitan, de vouloir répandre le chaos et la mort sur terre. Quand je vois des gens ensuite, des musulmans, au nom d'Allah, venir tuer des innocents, massacrer des innocents, eh bien, moi là, je me dis, mais écoute, là, il y a un gros problème. Où est-ce que tu as été cherché? Dans quel livre tu as été chercher ton interprétation qui te légitime aujourd'hui d'aller utiliser la violence contre des innocents? Et donc je dis ça à lui, mais je dis aussi à l'autre extrême qui accuse l'islam de violence, qui dit que l'islam n'est pas compatible avec la République. Je citerai pas son nom, bon, on va pas. Mais il y en a de plus en plus des adeptes de ce zouave. Hein. Je lui dis, c'est complètement absurde de vouloir monter les populations, les communautés, les composantes religieuses de ce pays ou d'ailleurs, les unes contre les autres, parce que ce genre d'énergumène, finalement, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est utiliser la politique pour faire de l'argent, remplir ses poches d'argent et faire en sorte d'avoir plus de 5% au moins au premier tour pour pouvoir être remboursé de tous ses frais et puis toucher même le pactole pour pouvoir remplir ses poches au nom en utilisant la paix sociale et en sacrifiant la paix sociale que nous avons mis si longtemps à nous battre pour la réaliser. Donc moi, qu'est-ce que je te dise ? La liberté d'expression, oui, mais pas au détriment de l'ordre public. Et je pense que là, il y a à travers le discours de certains politiques, une atteinte à l'ordre public. Et on devrait réagir par rapport à ça. Et on ne peut pas se laisser emporter par des notions de soi-disant liberté d'expression en permettant à des gens, ces énergumènes, de remettre en cause et de en enlevant qu'une seule carte, hein, du château de cartes, parce que c'est un château de cartes. La paix dans le monde est un château de cartes. À partir du moment où tu enlèves, il est très très fragile. Tu enlèves une carte, tout s'effondre. Et c'est le chaos qui reprend le dessus. Donc il est fondamental que chaque musulman comprenne bien qu'aucun imam en France et ailleurs ne pourrait être un véritable imam juste et digne de l'être. Imam, ça veut dire celui qui est imam, celui qui est devant et qui guide ses frères, que seulement vers la paisibilité, par la sérénité, par la béatitude, par la félicité, par le souhait du bien de l'autre, de tout un chacun, qu'il soit musulman ou pas. Il n'y a pas de logique communautariste où le prophète serait une miséricorde pour les musulmans et pas pour les autres. Le Coran vous contredira. Il dit, subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka, et nous ne t'avons envoyé, illa rahmatan lil alamin, que miséricorde pour les mondes. Donc voilà un exemple exemplaire. Et le musulman, la définition, quand le prophète dit, quand on l'interroge, qu'est-ce qu'un musulman? Un musulman qui est la traduction du mot musulman en franc arabe. Musulman, musulman, qu'est-ce qu'un musulman? Le prophète dira, el muslimu, man saliman nasu, celui dont les gens sont préservés du mal, hein, min lisanihi wa yadi, de sa langue et de ses mains. C'est-à-dire de ce qu'il pourrait être nuisible, de ce qu'il pourrait dire avec sa bouche ou commettre avec ses mains. Donc un musulman est celui dont toute personne est préservée, est rassurée, est en paix, se sent en toute quiétude. Il ne craint pas de son concitoyen, parce que là on parle de concitoyen, de différentes confessions ou co-religionnaires de même religion, hein, qu'il n'émane de lui que ce qui pourrait être source de protection et de quiétude. À partir de là, le prophète va cultiver en nous cette notion d'amour et de paix en mettant en place tout un arsenal qui va contribuer à consolider à cimenter les liens entre les hommes. Il dira par exemple, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ne sera pas véritablement croyant un musulman tant qu'il n'aimera pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc à partir de là, moi je souhaite pour moi la vie, je souhaite pour moi la santé, je souhaite pour moi la sécurité, eh bien je dois la souhaiter pour les autres. Et je dois me comporter avec les autres comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi-même. Voilà la leçon de ce hadith qui est dans l'Arba'in Nawawiyah et plein d'autres hadiths qui vont dans ce sens d'altruisme, de solidarité, et qui bien entendu, si elle est répandue, elle ne peut pas laisser place à la guerre, à la violence. Puisqu'on est constamment dans le souci du bien-être de l'autre, on est dans cet altruisme, dans cette empathie qui va se cultiver et susciter en nous. Et donc, les adorations, les actes d'adoration, non d'objet, il faut le savoir Philippe, que pour susciter ces valeurs et imposer et répandre ces valeurs dans la société.
Et alors, pratiquement, pour ceux qui nous écoutent, Imam Abdelali, qu'est-ce que ça veut dire que de répandre la paix? Comment on fait?
Eh bien, d'abord, il faut que nous-mêmes, nous soyons source de paix. On ne peut pas répandre quelque chose qu'on n'a pas. Si moi-même, dans ma tête, je suis pas en paix dans ma tête, je peux pas être en paix avec les autres. Et je peux pas répandre la paix autour de moi. Donc d'abord, soyons en paix avec nous-mêmes. Et l'un des moyens les plus importants, et même qui est la visée principale de cette pratique, c'est de s'imprégner de cette paix et d'en devenir une source de paix. Et de répandre autour de nous, de déborder de paix, c'est la prière. Vous allez me dire, ouais, la prière, attends, moi, je suis pas très d'accord avec toi, monsieur l'imam. Hein, parce que vous, l'imam, vous dites, arrêtez pas de dire dans la prière, Allahu Akbar, ce fameux cri de guerre. Allahu Akbar, quand vous vous inclinez. Allahu Akbar, quand vous vous prosternez. Pour moi, si vous êtes en train de répandre, à travers ce cri de guerre, hein, puisque c'est comment il l'interprète, monsieur, hein, un certain Finkielkraut, par exemple, qui dit qu'Allahu Akbar est un cri de guerre.
Il faut revenir à la traduction, hein. Qu'est-ce que ça veut dire?
Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Et qu'est-ce que veut Dieu le plus grand, qui est le maître suprême de l'univers et de la terre en particulier? C'est que son calife sur terre fasse régner l'ordre et la paix. En aucun cas il a été question, quand on dit Allahu Akbar, de légitimer la violence et la guerre. Allahu Akbar, c'est d'abord un cri de joie. C'est souvent quand on a vaincu la tyrannie, les combattants qui se sont battus et qui certains sont morts martyrs pour répandre la paix sur terre, parce qu'ils ont sacrifié leur vie, et bien, ce sont ceux-là les mujahidines. Un mujahid, c'est quelqu'un qui se bat pour la paix et la justice sur terre. Et donc forcément, il doit passer par une mobilisation faite par l'État, donc par une armée officielle qui est formée, et qui à qui on va enseigner les conventions de Genève, les accords internationaux pour empêcher les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, etc. Le militaire est finalement le mujahid qui va être le gardien de la paix sur terre et non pas source de haine, de violence et de chaos. Sinon, c'est pas un militaire. À ce moment-là, c'est un terroriste. Voilà la différence entre un terroriste et un guerrier militaire engagé dans une armée légitime d'une nation légitime. Par exemple, moi je dis, je voudrais rendre hommage à tous nos frères et même nos sœurs qui sont dans l'armée française et ou dans les armées dans le monde et qui sont des gardiens de la paix et qui protègent l'intégrité territoriale et la population de leur pays. Et c'est la raison pour ce pourquoi ils ont enfilé ce treillis militaire. C'est pas pour tuer, mais pour protéger. Ils protègent la population et non pas ils tuent. Donc il y a une notion erronée à cause des films, à cause de le bourrage de crâne qu'on a subi, des jeux vidéo, etc. On a une compréhension. À partir du moment où tu as une arme dans les mains, c'est forcément pour tuer. C'est pour mettre fin à la personne qui est en face de toi sans même réfléchir qui elle est. C'est complètement absurde. Le djihad a des règles. Comme quand Dieu t'a imposé la prière, il t'a imposé des règles pour faire la prière. Tu fais pas la prière n'importe comment, on est bien d'accord. Tu fais pas 10 fois recours et 10 fois sujoud. Tu fais comme le prophète t'a enseigné. Eh ben le djihad, pourquoi il ferait l'exception? Lui aussi doit faire l'objet de respecter des règles, les règles de la guerre, pour justement elles deviennent une source de paix.
L'islam au présent jusqu'à 11h sur BFM. Alors vous pouvez bien sûr poser vos questions à l'imam Abdelali, c'est la dernière émission en direct de l'année. Profitez-en, 01 53 48 3000 si vous voulez poser votre question, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. BFM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors nous sommes en train de voir avec vous, imam Abdelali, en quoi dans la pratique des rites, cela contribue à répandre la paix.
Alors, on parlait tout à l'heure de quand on change de chaque posture dans la prière, on dit Allahu Akbar, et que certains ont interprété cette expression comme un cri de guerre. Eh bien, voyons un petit peu, puisqu'ils disent que c'est un cri de guerre, normalement, moi, suite à cela, je devrais être en ébullition, chauffé à blanc, pour, dès que je termine ma prière, répandre la paix, la guerre, puisque Allahu Akbar, c'est un cri de guerre. Eh bien, voyons, qu'est-ce que nous faisons quand nous faisons la prière? Et comment nous parachevons notre prière? D'abord, voyons ce dialogue où nous apprenons de Dieu ce qu'il attend de nous. D'abord, ce qu'il attend de son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses adeptes, tous ses disciples, tous ceux qui le suivent derrière lui, quand il va rencontrer son Seigneur. Alors nous le faisons spirituellement dans la prière, mais lui l'a fait réellement lors de l'ascension. Et lors de cette ascension, quand il est arrivé au-dessus de sept cieux, il a dit cette fameuse formule dans laquelle il a salué Dieu. Il a présenté les salutations à Dieu, les bontés, les puretés, les prières à Dieu. Il dira en arabe, et cette expression-là, personne ne me la contestera. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyyatu lillah. Vous savez, quand on bouge le doigt dans la prière, on est à genoux. On va parachever notre prière. Nous sommes à la fin de notre prière. Nous sommes en train de bouger notre doigt et on est en train de regarder notre doigt en train de bouger. Et nous disons salutations à Dieu. Bonté à pieux, at-tayyibatu lillah, salawatu lillah. Les prières sont à Dieu, les puretés, az-zakiyatu lillah. Donc tout cela, ce sont des mots que le prophète a dit quand il est arrivé face à Dieu, au-dessus des sept cieux, et que tout autour de lui n'était que lumière. Attendons, voyons comment Dieu va répondre. Normalement, il aurait dû lui répondre, et sur toi aussi, les salutations, et les bontés, et les prières, et les puretés. Il aurait dû dire, wa alayka salam, wa alayka. At-tahiyyat wa zakiyat wa at-tayyibat. Eh bien non. Là, Dieu, dans le Coran, il dit assalamu alayka ayyuhan nabi. Que la paix te couvre, ya Muhammad. Que tu sois couvert par la paix. Assalam. Dieu dit tahiyyat, qu'est-ce que j'ai rien à faire, moi, tahiyyat. Je t'ai pas demandé de venir là pour que tu me dises tahiyyat. Même si, bien entendu, Dieu n'a pas refusé cette expression de la part de son prophète bien-aimé, puisque c'est une des manières les plus respectueuses de saluer quelqu'un que tu rencontres. C'est de lui dire, les puretés, les bontés, les prières sont à toi, ô mon Seigneur. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais Dieu veut vraiment lui montrer qu'est-ce qu'il attend de lui. C'est l'enseignement de Dieu. Il lui dit, non, ya Mohammed, ce que je veux de toi, et ce que je veux que tu sois, et que tu sois source de cela, c'est assalamu alayka ayyuhan nabi. Que la paix soit sur toi, ô prophète, et la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Le prophète comprend et répond. Il dit, ah, d'accord, assalamu alayna, que la paix soit sur nous, que Dieu, que nous soyons couverts de paix, pour que nous puissions être source de paix. wa ala ibadillahi salihin, sur, et ainsi que sur les serviteurs les plus vertueux. Et là, il y a un petit, une petite parenthèse que l'on doit, on doit pas oublier, c'est que la paix, le prophète dit d'accord, à condition que la personne à qui tu transmets la paix soit une source de vertu. Par contre, si elle est source de vice, de tyrannie, de malheur, de chaos, de, d'injustice, là, il n'est pas question de parler de salam. Là, il est question de mettre hors d'état de nuire celui qui est source de tyrannie, etc. Donc, à partir de là, le prophète insiste bien. Il dit « Assalamu alayna, que la paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux. « Wa ala ibadillahi salihin. » Donc, ensuite, quand le prophète a reçu ce message, il a compris que qu'Allah attend de lui la paix et que toute cette prière qu'il vient d'accomplir, qu'il l'a mis dans un état de béatitude, de sérénité, de bien-être, de zénitude, cette prière dans laquelle il s'est senti imprégné de la spiritualité, de la lumière divine, eh bien, elle fasse en sorte qu'elle transforme cet homme en source de paix. Et qu'est-ce que fait l'homme dès qu'il termine sa prière? Et pour même terminer sa prière, il applique immédiatement l'injonction divine. Il se tourne vers sa droite, c'est-à-dire vers la création, et vers sa gauche, le reste de la création. Il dit quoi? Que la paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu. Assalamu alaykoum. Est-ce que je dis des bêtises, Philippe? C'est bien comme ça qu'on termine notre prière. Je crois que tu dois connaître un petit peu. Tu en as déjà vu pas mal, des gens qui prient autour de toi. À la fin, comment tu entends les gens prier, Philippe? C'est tu les entends dire Assalamu alaykoum wa rahmatullah sur la droite. Et ensuite, Assalamu alaykoum wa rahmatullah sur la gauche. Donc, on voit bien que la prière en elle-même n'a de visée que de susciter en nous la paix et d'être source de paix. Et cela explique bien que la raison pourquoi Dieu nous a légiféré cette prière quotidienne où on doit un rendez-vous avec Dieu 5 fois par jour pour cultiver en nous cette source de paix, eh bien, c'est de comprendre que Allah Azza wa Jalla, finalement, il n'a pas besoin de cette adoration. Parce que si on se pose la question, ben alors peut-être que si on prie pas, Dieu il va avoir moins de royauté, moins de pouvoir, moins d'assujettissement de ces esclaves que nous sommes, des soumis, des humiliés. Non. Dieu veut nous honorer, veut nous anoblir à travers cette prière, et non pas nous humilier. Quand on met notre tête au sol, on a l'impression que certains vont dire, ouais, ils sont en train de s'humilier, ils sont en train de se rabaisser en mettant la tête au sol. Non, c'est en montrant de l'humilité et de la soumission à Dieu et que nous nous imprégnons de cette source de paix qui est la miséricorde de Dieu et la paix venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et donc le croyant, quand il fait cela, il est persuadé que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour faire profiter à Dieu, mais à lui-même. C'est lui qui est le seul qui profite de cette prière. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qudsi où Dieu dit, hein, ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous jusqu'au dernier d'entre vous était aussi pieux que le meilleur d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon pouvoir et à ma royauté. La mazada dhalika fi mulki shay'a. Donc à partir de là, on comprend que cette prière, cette soumission, cette béatitude que le croyant réalise à travers cette prosternation, où est-ce qu'il est le plus proche de Dieu, eh bien, ça n'est pas pour s'humilier devant Dieu le tyran. Non, Dieu n'est pas un Dieu tyran. C'est un Dieu d'amour. Allah veut dire amour dans la langue, en arabe littéraire. Donc à partir de là, il faut qu'il comprenne qu'à partir de là, quand il termine sa prière, chaque prière ne doit en lui que susciter la paix et répandre la paix sur terre. Et il dira, le prophète, à tel point, et là je terminerai avec cette formule, que l'objectif de tout cela, c'est d'obtenir la satisfaction divine nécessaire pour rentrer au paradis. Et il dit, le prophète, que vous ne rentrerez au paradis que si vous vous entraimez. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tant que vous n'êtes pas, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'êtes pas des croyants. Et vous ne serez des croyants que si vous vous entraimez. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et ensuite le prophète dira à ses compagnons: Ala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum, ne vous guiderai-je pas vers un acte que si vous le faites, vous allez vous entraîner et ainsi donc être des croyants et donc ainsi rentrer au paradis. Ils ont dit: Ya Rasulallah, bien sûr, on veut bien. Qala afshu as-salama baynakum. Répandez la paix autour de vous. Donc finalement, c'est ça la visée d'Islam. C'est d'être source de paix, et que celui qui pense autre chose, il a rien compris à cette religion. C'est incroyable comment on peut en arriver et la réalité nous le dit, même à travers les musulmans quand ils étaient dans cette, on en reparlera peut-être plus tard, de l'histoire, qui étaient finalement les vrais tyrans, les vraies sources de violence dans ce monde depuis l'humanité. Wallahu a'lam.
Alors, je vous propose, Imam Abdelali, d'aller à Toulouse, et puisque Nordine nous a appelé au 01 53 48 3000, Nordine, vous êtes le bienvenu.
Assalamu alaikum
wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Comment il est beau ce mot, quand il est cité, quand il est prononcé avec une meilleure compréhension.
J'ai une première demande à vous faire.
Oui, vas-y, Khoya.
Est-ce que vous allez bien?
Alhamdulillah, Khoya. Alhamdulillah, ça va très bien. Sinon, je ne serais pas là. J'aurais fait congé maladie. Comment?
La famille et la santé vont bien.
Allah, jazakallah, alhamdulillah, ça va. Ça va. J'ai un proche qui est malade. Faites des duas pour lui, qu'Allah y chafie. Il a un cancer. Il a besoin de vos duas. Et puis aussi, au para. Il
nous le préserve. Il nous le garde parmi nous, bi-idnillah. Et qu'il fasse tous les deux nos petits là.
Amin, Rabbi Alam. Tahour, Tahour. Angoulou la Tahour, Inch'Allah.
De faire des doigts pour le frère, Masha'Allah. Qu'on veut pour nous, on le veut pour notre frère, Allahumma barik.
Amin, Rabbi Alam. Jamais. Allah shafi marda kull al-nas. Kull al-nas, mashi al-muslimin.
Amin, amin, amin.
Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, musulmans ou non, qu'Allah leur donne un prompt rétablissement, Inch'Allah, qu'il les ramène dans leur famille en sain, en bonne santé.
Masha'Allah. Allahumma barik. Ensuite, j'aimerais venir sur un point avec toi, Bénilé, pour avoir ton avis si possible.
Oui.
Parce que ça fait quelques années, j'ai lancé un quiz sur Snap, 3-4 mois avant Ramadan, pour motiver les gens à se remettre dans le bain, Bénilé. Donc, il y a 3 gagnants par semaine. Je pose des questions, en fait, sur religieuse. Peu importe que ce soit christianisme, judaïsme ou sur l'islam, il faut m'emmener les sources quand on répond, bien sûr. Et là, je vais leur poser une question, Bidnillah, mais j'aurais vraiment besoin de ton avis, parce qu'il y a des. Ça diverge sur Salat et Jemoa.
Ouais.
Donc, nous, par exemple, à Toulouse, le Dhuhr, il est à 13h.
Ouais.
L'Asr, il est à 15h.
Oui.
Et il y a certaines mosquées où ils font Jemoa à 14h. Et du coup, le prêche dure quasi une heure.
Jusqu'à l'Asr.
Oh, voilà, exactement.
Mmh.
Donc, est-ce qu'on enchaîne directement l'Asr ou pas?
Bah oui, bien sûr, puisque si c'est l'heure de l'Asr, on va prier l'Asr. Mais attention, il faut que l'imam s'assure bien qu'il termine sa prière de Jumu'ah avant l'entrée de l'heure de l'Asr.
Oui, ok.
Il ne faut pas que ça soit l'Adhan, c'est-à-dire dans le calendrier, que ça soit l'heure de l'Asr, et lui, il n'a pas encore prié le Jumu'ah. C'est pas convenable de faire ça. Il doit prier dans la plage horaire qui est réservée à la prière de Dhuhr. Pour faire le Jumu'ah, normalement, la plage horaire, c'est l'heure de Dhuhr. L'heure de Dhuhr et l'heure de Jumu'ah. Donc, il doit prier le Jumu'ah avant l'Asr. Et ensuite, quand l'heure de l'Asr arrive, il fait l'Asr, bien sûr.
Masha'Allah. Ben, tu as confirmé ce que je pensais, alhamdoulilah. C'est une question qui va revenir.
Mm-hmm.
Et donc, voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien.
Sidi Khouya, on te souhaite aussi. Voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Allah yahfadak Khouya Nordine. À bientôt, Inch'Allah.
Merci, Nordine. Alors, on a Karim au 01 53 48 3000. Bienvenue, Karim.
Karim, allô, vite. Ouais, on t'écoute. 2 minutes, hein, pour t'apporter.
Oui. Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Alors, je me permets juste d'appeler pour poser 2 petites questions, si vous permettez, Karim.
Alors, on va te laisser poser les questions, mais on n'est pas sûr d'y répondre tout de suite. On les répondra après la pause, Inch'Allah. Alors, vas-y.
Ce sera des questions très simples. La première question, juste, j'ai entendu me dédier à vous expliquer à juste titre la notion de Allahu Akbar en arabe. Mm-hmm. La première question, elle est très simple. Pourquoi en français on dit Dieu est grand? Alors qu'en arabe, on dit Allahu Akbar, on est dans la comparaison. Pourquoi avons-nous besoin de comparer la grandeur de Dieu à quelque chose, alors qu'en français, il n'y a pas de comparaison? Ça, c'est une première question.
En arabe, la traduction, c'est...
Alors, la traduction, c'est pas Dieu est grand, c'est Dieu est plus grand.
Et plus grand.
Dieu est plus grand. C'est le tafdil. On appelle ça le tafdil. C'est le superlatif. En français, on appelle ça.
Et pourquoi
tout simplement parce que quand tu rentres dans la prière, tu dois, déclarer à Dieu que tout ce qu'il y a sur terre, rien n'est plus grand que toi. Qu'il y a sur terre n'est plus grand que toi, et que c'est toi qui es plus grand que tout ce qu'il y a. Et donc je délaisse, en levant les mains, tu vois, je lève mes mains dans ma prière. Tu vois, je lève mes mains jusqu'aux épaules. Je suis en train de faire un geste symbolique pour dire, je rejette derrière mon dos tout ce qu'il y a de la création pour me concentrer pleinement à une relation intime avec Dieu. C'est un acte dans lequel tu vas te concentrer, tu vas te mettre dans un état de khushu' et de khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Je sais pas comment traduire ce mot en français. De méditation et de contemplation et de concentration, si on veut dire, dans la prière pour n'être qu'avec Dieu et que tout ce qui reste, tout ce qui est au-delà de Dieu n'est que petit et vil. Il n'y a que le Dieu suprême qui est le plus grand, plus que toute chose. Et je me mets dans cet état-là pour consacrer pleinement ma prière à lui. C'est une aide psychologique, on va dire ça comme ça, pour se concentrer dans ta prière et dans ta relation intime que tu vas avoir avec Dieu. Est-ce que je suis clair?
Non, mais je comprends, mais moi personnellement, en tête personnelle, j'ai toujours du mal avec cette comparaison superlative. Justement, moi,
il ne s'agit pas de comparer, il s'agit de te permettre de te concentrer. C'est un acte de spiritualité symbolique que tu accomplis pour que tu puisses te concentrer. Parce que l'homme, il est influencé par son environnement et par la création qui est autour de lui. Donc, pour pouvoir justement se débarrasser de tout cela, il dit Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout ce qui pourrait me distraire de lui. Et je lève mes mains pour rejeter tout ça derrière moi. Est-ce que tu vois, c'est une symbolique?
Enfin, je comprends, mais la réalité qu'on vit chaque jour, ça ne nous empêche pas d'avoir des pensées à gauche, à droite.
Personne n'a dit le contraire, mais ça permet, c'est une aide. C'est une lutte contre le nafs, contre le diable tourmenteur. Hadal Khanzeb, qui est le diable de la prière, qui vient te tourmenter, yuswus alayk fi salat, eh bien, tous ces gestuels, tous ces mots que tu vas dire, Allahu Akbar, etc., vont combattre et lutter contre ces tourments et le fait, parce que dans la vie de tous les jours, on est constamment en train de penser aux choses de la vie, aux choses de la dunya, de la création. Là, Dieu, il te demande, fais un break, je te veux pour moi, tout seul, et exclusivement pour moi.
Alors, dis Allahu Akbar. Karim, quelle est votre deuxième question, si vous avez une deuxième question à poser à l'imam?
Et j'y répondrai pas tout de suite.
Oui, cher imam qui a parlé de jihad.
Oui.
Est-ce qu'il n'est pas temps de reconnaître que dans la nation jihad, il y a la conquête? Parce que nous savons très bien que l'islam toujours est allé chercher...
L'islam, c'est pas une personne. On en reparlera après la pause. J'ai compris ta question. Barakallahu fik.
Voilà. Dans un instant, la suite de vos appels, au 01 53 48 3000. L'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors, Imam Abdelali, vous avez été interpellé par Karim qui vous posait une deuxième question qui concerne le djihad.
Non, qui concerne la conquête. Bon, le djihad, certes, mais lui, il a évoqué, il dit d'accord le djihad, mais il a dit, concernant le mot conquête et les conquêtes, l'islam, il dit que l'islam a été une religion conquérante. Moi, je lui dis la chose suivante, un conquérant, c'est quelqu'un qui vient envahir le peuple et remplacer ce peuple par une autre population et piller, tuer le... ce sont des envahisseurs. Ce sont des gens qui envahissent et qui massacrent et qui ont, comme les Mongols, quand ils arrivaient, ils pillaient, ils détruisaient et ils repartaient. Alors que les musulmans, quand ils allaient en guerre, d'abord, ils allaient d'abord libérer le peuple, souvent contre un tyran, un roi ou un empereur tyran. Donc, ils libéraient ce peuple-là de l'oppression, en plus qui imposait la religion d'État à toute la population. Alors que l'islam, non, l'islam n'a jamais imposé l'islam. Elle a dit, les musulmans vous payez la zakat et les non-musulmans vous payez la jizya. C'est-à-dire tout le monde paye un impôt finalement pour l'effort collectif des besoins collectifs. Hein. Comme dans n'importe quel pays, on a des impôts, on est tous participants à l'effort collectif. Donc chez les musulmans ça s'appelle la zakat et chez les non-musulmans et le kharaj aussi, donc et même le kharaj, et chez les non-musulmans on appelle ça la jizya. Donc c'est l'impôt, il y a l'enseignement public, il y a la santé publique, il y a l'équipement territorial, il y a la protection civile, il y a la protection militaire, il y a tout ça. Eh bien ça coûte de l'argent. Il faut tous on contribue en payant quelque chose. Donc les conquérants musulmans qui venaient conquérir ces pays-là, d'abord ne changeaient pas de chef, ne disaient pas au chef de la tribu du pays, bah tu dégages, t'es plus rien du tout. Non, souvent il était toujours celui qui en se convertissant à l'islam devenait garder le statut de chef de tribu, de chef du village, même de chef de territoire. De son peuple lui-même qui était le même et qui ne subissait aucune on va dire il n'y a pas de destruction, il n'y avait pas de saccage, il n'y avait pas de barbarie commis contre eux. Donc il faut aussi lire exactement en détail comment ont eu lieu ces batailles. Je donnerai un exemple, la conquête de Jérusalem. Quand les croisés sont arrivés à Jérusalem, il y avait 700 000 habitants. On dit que à la fin de la bataille, il en restait moins de 1000 habitants. Sur 700 000, vous vous rendez compte combien de morts ça fait? à 699 000 personnes. Bon, ça, c'est certains historiens. Bon, ça semble peut-être exagéré.
Ça fait beaucoup.
Mais en tout cas, oui. Ça a été un bain de sang. Ça, c'est tout le monde, tous les historiens sont d'accord pour dire que ça a été un bain de sang. Quand Omar est rentré à Jérusalem, il est rentré d'abord sur autorisation du grand patriarche qui lui a dit, nous avons dans nos livres que c'est un homme qui a telle description et telle forme, etc., qui doit lui recevoir les clés de la ville. Et il s'agissait de Omar al-Khattab. Et donc, l'armée a donc attendu que Omar se déplace de Médine jusqu'à Jérusalem pour recevoir les clés du patriarche en main propre, et ils sont rentrés en paix et leur ont dit, bon, les musulmans, vous payez votre zakat et leur kharaj de votre production, et les non-musulmans, vous versez la jizya. Ensuite, il a dit, ceux qui sont en galère, ben, ils payent rien. Ceux qui sont vraiment trop en galère, eh bien, non seulement ils payent rien, mais en plus, ils reçoivent de l'État des aides. C'était civilisationnel. Ce n'était pas des conquêtes où on, comme les Occidentaux, lors des colonies en Afrique, ils ont organisé les traites négrières, les massacres de population, les pillages de richesses souterraines ou surterraines, voilà, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout comparable. Regarde ce que ont fait les Blancs anglais et irlandais et les Espagnols en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. C'est un véritable grand remplacement, on peut utiliser ce terme, puisque les Indiens d'Amérique ont été totalement décimés remplacés.
C'est un génocide.
Non, mais pas que. Ça a été un remplacement. Il y a eu des millions et des millions d'Irlandais, d'Anglais, etc., et même de Français au Canada, etc., qui sont venus, qui ont pris place à la place de... Et on vient nous donner des leçons de grand remplacement. Mais attendez, là, c'est le monde à l'envers. Alors que quand on lit l'histoire des conquêtes musulmanes, de ce que lui il appelle conquête musulmane, il n'y a jamais été question de remplacer quoi que ce soit. Je dirais mieux que ça. Quand on regarde ceux qui sont montés en Espagne, les militaires qui sont montés en Espagne pour aller conquérir ou se battre contre les Vandales, les Visigoths, hein, qui étaient même pas chez eux, hein, faut pas croire, c'est pas des chrétiens qu'ils avaient en face d'eux. C'était des Vandales, d'où le terme Andalousie, ça vient du mot Vandalousie. Donc c'était des Vandales qui étaient des barbares, qui tyrannisaient la population. Et ils étaient bien contents d'avoir enfin une population civilisée qui a fait de l'Andalousie une civilisation, la civilisation des Lumières de l'époque, qui a illuminé le monde entier par ses richesses scientifiques et culturelles. Personne ne peut le nier, aucun historien ne pourra nier cette réalité-là, que cette conquête de l'Espagne a été un bien pour toute l'humanité. Toute l'humanité a profité. Le siècle des Lumières a été fondé sur la créativité et l'esprit brillant des chercheurs et des savants de l'Andalousie. Pas que musulmans, il y avait même des savants juifs, des savants chrétiens et qui venaient de toute l'Europe pour échanger, parce qu'ils avaient imposé un climat de paix qui donnait toute sa place et sa chance à la découverte et à l'échange scientifique. Walhamdulillah. Donc comment oser comparer et dire que l'islam de la religion du jihad est une religion de conquête, si t'appelles conquérir les cœurs une conquête, je veux bien conquérir les cœurs, mais on ne peut pas conquérir les cœurs malgré la personne. Hein, y a bien une chose dans le corps de l'âme, du corps humain, quelque chose qu'on ne peut pas obliger, c'est bien la croyance, la foi. Même tu mets un pistolet sur la tempe de quelqu'un, tu lui fais dire ce que tu veux, tu vas lui dire la ilaha illallah, il va dire, mais s'il n'y croit pas dans son cœur, il n'y croira pas. Donc ça sert à rien de forcer et d'obliger les gens, puisque même de toute façon tu pourras jamais convertir quelqu'un s'il le fait pas de son plein gré, qu'il le fait pas de manière convaincue. Donc ça, la contrainte en islam est totalement interdite et prohibée, et c'est pas possible. La ikraha fid din. Innama anta mudhakkir, tu n'es qu'un rappel. Lasta alayhim bimusaytir, dira le Dieu à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas sur eux un dominateur.
Bon, alors on rappelle que pour ceux qui veulent partir à la Omra avec l'imam Abdelali mercredi, il reste des places.
Oui, aujourd'hui, dernier délai aujourd'hui, on est je crois le 17, c'est ça Philippe ? On est aujourd'hui le 17, c'est ça ? Non, 18, samedi 18, 18, 18. Aujourd'hui 18, donc dernier délai pour s'inscrire pour partir avec moi Inch'Allah. Donc il faut tout de suite aujourd'hui même apporter le passeport à l'agence Rami Voyage, qui est une agence juste en face de la Grande Mosquée de Paris. Où c'est vrai que là maintenant je travaille beaucoup au sein de la mosquée de Paris. En tout cas l'agence Rami Voyage vous accueille les bras ouverts. Vous avez qu'à me téléphoner pour prendre rendez-vous avec moi Inch'Allah et venir vous inscrire aujourd'hui au 06 29 25 35 00. Deux autres annonces si tu le permets. Deuxième annonce, c'est celui qui veut pas partir mais qui voudrait qu'on fasse une Omra pour une personne décédée ou malade, etc. Vous pouvez m'appeler aussi. On peut organiser ça aussi, une Omra pour une tierce personne, c'est-à-dire une Omra par délégation, voire même le Hajj. Vous pouvez réserver le Hajj de cette année, hein, par délégation. Une dernière chose aussi encore, c'est pour justement ce proche-là. On organise une cagnotte. On a déjà récolté pas loin de 3000 euros, presque 3000 euros. Il nous faut 8000 euros. Hier, il y a encore des dons qui sont arrivés, mashallah. Tous les jours, ils viennent. Donc, pareil, vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Ça permettra, inshallah, de soulager et de guérir, inshallah, ce frère qui n'a pas de prise en charge, de financer sa chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, etc., médicaments, calmants, etc., etc. J'en passe les meilleurs. Vous savez très bien comment ça se passe. Le traitement du cancer est quelque chose de très lourd. Donc 06 29 25 35 00.
Voilà, et on vous retrouve à la rentrée,
Inch'Allah,
Abdelali.
Après la rentrée.
Voilà,
parce que même le premier, samedi premier, c'est un samedi.
Ramenez-nous.
On est en congé.
Ramenez-nous de l'eau de Zemzem.
Je vais vous en ramener.
Voilà.
Inch'Allah.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde, peut-être pas, mais pour Philippe et Yanis, il en veut un petit peu.
Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon.